Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'événements dramatiques qui ont eu lieu il y a 175 ans, et particulièrement à Notre-Dame des Victoires. Et ces événements ont eu des conséquences dramatiques, comme vous allez le découvrir. Alors en 1870, je fais un petit rappel historique. En 1870, la France vivait sous le régime impérial, puisque c'était Napoléon III qui était à la tête du pays. Et des tensions avec le royaume de Prusse amenèrent la France à lui déclarer la guerre le 19 juillet. L'armée impériale fut rapidement mise en échec. Napoléon III capitula à Sedan le 2 septembre. Et la République fut proclamée le 4 septembre. Paris était assiégé et la France envahie par les armées prussiennes. Un armistice fut signé le 26 janvier 1871, suivi d'un armistice général le 15 février du même mois. Le traité de paix du 10 mai 1871 entérina la victoire allemande. Je dis « allemande », et non pas prussienne, parce que le roi de Prusse, Guillaume Ier, avait été proclamé empereur d'Allemagne le 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles. Pendant ce temps-là, le 8 décembre 1870, suite donc à la défaite militaire de la France face à la Prusse, un monsieur, Alexandre le Gentil, formula dans une lettre à l'évêque de Poitiers, Monseigneur Pie, une première version du vœu national qui consistait à bâtir une église à Paris dédiée au Sacré-Cœur de Jésus afin de lui confier la France. Ceci en signe de pénitence, de confiance, d'espérance et de foi. Il sera ensuite rejoint par son beau-frère, M. Rau de Fleury. En janvier 1871, une nouvelle rédaction du vœu national est rédigée. Le même mois, le 17, la Sainte Vierge apparaît à quatre enfants à Pontmain. Le 19, après de nombreux remaniements, le cardinal Guibert, archevêque de Paris, approuve le vœu. À la fin de la même année, en 1872, Monseigneur Guibert entérine la décision de choisir la butte Montmartre. En 1873, l'Assemblée nationale, après des débats houleux, vote le projet de construction du sanctuaire du vœu national comme d'utilité publique. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, voterait, ça m'étonnerait. Alors voici le texte du vœu national. En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs encore plus grands, peut-être, qui la menacent encore, en présence des attentats sacrilèges commis à Rome, contre les droits de l'Église et du Saint-Siège et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ, nous nous humilions devant Dieu et réunissant dans notre amour l'Église et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le pardon de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la France. Nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, dans ce texte du vœu national, il est question du pape, prisonnier. C'était le pape Pie IX, le bienheureux pape Pie IX. Pourquoi ? Parce que l'Italie était en proie à de violentes secousses. C'était l'unification de l'État italien. Et en 1870, les troupes qui rêvaient de construire l'Italie ont envahi Rome, ont assiégé Rome et le pape s'est retrouvé prisonnier au Vatican. C'était la fin des États pontificaux, entre autres. Voilà. Alors, le 15 août 1873, Monseigneur Guibert proclama un mandement qui se conclut ainsi. Une souscription est ouverte dans notre diocèse pendant 5 ans, à partir de ce jour, pour construire à Paris, sur les hauteurs de Montmartre, une église qui sera dédiée au Sacré-Cœur, conformément aux vœux des catholiques de France. En outre, il sera fait à la même fin une quête dans toutes les églises et chapelles de notre diocèse le dimanche où on célèbre la fête du Sacré-Cœur. Cette quête sera renouvelée pendant 5 ans et sera notre présent mandement lu au prône de la messe paroissiale et dans les chapelles des communautés, collèges et institutions, hôpitaux et hospices, le dimanche qui en suivra la réception, publié et affiché partout où besoin sera. Alors, à la suite de ça, le pape Pie IX publia un bref adressé à l'archevêque de Paris le 31 juillet, dans lequel il manifesta sa joie et son espérance de la France, fille aînée de l'Église, et concluant par une bénédiction apostolique à l'archevêque et au diocèse de Paris. Toujours pendant ce temps-là, le gouvernement provisoire dirigé par M. Adolphe Thiers va se trouver confronté à une rébellion amenée par un mouvement populaire que l'on appellera la Commune de Paris. Les prémices furent le refus de l'armistice et l'opposition au gouvernement qui voulait désarmer la garde nationale. Et l'étincelle qui mit le feu aux poudres fut la prise des canons qui étaient situés sur la butte Montmartre le 18 mars. À partir de ce jour, la Commune de Paris était proclamée et le gouvernement se replie à Versailles, et ceci jusqu'au 28 mai. Vont se multiplier exactions, pillages, incendies et assassinats de laïcs et de prêtres. Notre-Dame des Victoires fut l'église la plus saccagée de Paris. Catherine Labouret, Sainte Catherine Labouret, qui était encore de ce monde, puisqu'elle était religieuse à l'hospice de Reuilly, quand elle a appris le saccage de Notre-Dame des Victoires, a dit « Ils ont pillé Notre-Dame des Victoires, et bien maintenant, ils n'iront pas plus loin. » Alors, quelques jours avant d'envahir le sanctuaire, le délégué au 2e arrondissement de Paris, M. Eugène Potier, son nom vous dit peut-être rien, mais c'est le monsieur qui a écrit le chant L'International. Voilà. Alors, ce monsieur était donc délégué et il a envoyé 2 lettres au conseil de fabrique. Alors, je vais vous les lire, vous apprécierez après. Là, c'est le document authentique. Alors, la première lettre a lieu le 9 mai 1871 et est adressée aux membres de la fabrique de l'église Notre-Dame des Victoires. Citoyens, la municipalité du 2e arrondissement se met en mesure de soulager toutes les misères réelles et elle entend faire respecter les arrêtés récents de la commune relativement à l'interdiction de la mendicité. Nous vous avertissons en conséquence que nous ne saurions tolérer l'exhibition de ces mendiants qui se tiennent sous le portail de l'église Notre-Dame des Victoires et auxquels vous donnez, pour ainsi dire, patente. Si la fabrique veut venir en aide aux indigents, elle peut le faire d'une manière plus intelligente et plus digne qu'en favorisant un déballage de misère affectée qui nous reporte aux scènes du Moyen-Âge. Veuillez prendre note de cet avis que vous pouvez considérer comme un ordre. Salut et égalité. On a l'impression de revenir 100 ans en arrière. La deuxième. Alors celle-là, elle a été envoyée le 14 mai, soit 3 jours avant le début du saccage de Notre-Dame des Victoires. Toujours la même formule, citoyen. La question de la location des immeubles où vous exercez votre industrie n'a pas encore été réglée entre la fabrique et la commune dont nous sommes les gérants. Notre intention est de régulariser cette situation à compter du 18 mars et nous désirons que vous vous entendiez avec nous dans le plus bref délai. D'abord sur les conditions de cette location, puis sur le meilleur système de paiement. Nous avions d'abord pensé à déléguer près de vous un architecte chargé de déterminer la quotité de la location d'après les dispositions et les dimensions des locaux occupés par vous. Mais comme vous devez avoir des plans de travail, ça peut être évité. Alors, quant aux moyens de paiement, nous désirons qu'ils soient journaliers et il n'y aura qu'à fixer la façon dont il pourra s'effectuer. Nous avons de plus l'intention de percevoir de suite le prix de la location depuis le 18 mars. Nous attendons de vous une visite immédiate. Alors, ce n'est pas monsieur le délégué qui est venu visiter 3 jours après, ce sont les fédérés. Ça s'est passé le 17 mai. C'était la veille de l'Ascension. Le 159e bataillon des fédérés pénétrèrent dans l'église. Il est 16h45. Le chaos s'installe rapidement. Les fidèles sont pourchassés, les prêtres molestés. Certains sont emmenés à la prison de la Roquette. La statue de la Vierge et de l'enfant Jésus est menacée. Elle sera sauvée miraculeusement grâce au courage de Monsieur Liebmann, qui fera poser un ex-voto en 1903. Dans cet ex-voto, il est là, à droite, il est caché par une fleur. Voilà. Alors cet ex-voto, on l'a retrouvé dans la crypte de l'église et il a été posé ici en 2021 à la demande du recteur, le père d'Augustin. Des barils de pétrole sont installés dans la cour de la mairie dans le but, bien entendu, de détruire l'église. Les scènes de pillage dureront jusqu'au 24 mai avec l'arrivée des troupes versaillaises à Paris. Le 26 mai, un rapport concernant la situation dans laquelle fut trouvée l'église de Notre-Dame des Victoires est rédigé par des représentants du bureau des Marguilliers. Le document étant très détaillé, il est là. Moi, je l'ai lu en entier, mais il est très, très, très fourni. Je préfère vous en donner quand même des extraits. Alors, il commence par ainsi, nous sous-signer G. de la Croix, vicaire de Notre-Dame des Victoires, sous-directeur de l'archiconfrérie. Cyril de Mondebanque, président du bureau des Marguilliers de Notre-Dame des Victoires. Adolphe Gérardin, maître des cérémonies de l'église de Notre-Dame des Victoires. Reconnaissons être entré dans l'église Notre-Dame des Victoires aujourd'hui, vendredi 26 mai 1871, à 2h35. Nous constatons reconnaître la profanation faite du lieu saint et les dégâts commis par les envahisseurs qui ont pénétré dans l'église le mercredi 17 mai, veille de l'Ascension, à 4h45 du soir. L'office du mois de mai finissant avec une nombreuse assistance qui a été expulsée violemment. Dans le chœur, le maître-autel est dépouillé du tabernacle. de 6 chandeliers et d'une croix en cuivre verni. Le bas-relief en zinc doré est arraché. Les tableaux de Karl Wanglow sont intacts. Alors ont disparu des lustres, des lampadaires, un ex-voto en lapis lazuli d'une grande valeur. Sur l'ex-voto donné par les Polonais, il est là, il est assez grand, vous voyez, il est ici. Les ornements en bronze doré, cœur et armoiries ont disparu. De l'autre côté, c'est celui-là, qui est derrière moi. Un ex-voto en langue italienne est dépouillé de ses ornements en bronze doré, cœur et ornements. Dans la chapelle de la Sainte Vierge, la statue est intacte ainsi que le tableau. Les cœurs, les croix d'honneur, les cadres d'ex-voto, tous les objets mobiliers ont disparu. L'autel est à peu près intact, mais le socle a été brisé. Le corps en cire de Sainte Aurélie, recouvrant ses reliques, a été retiré et profané. La tête retirée du reste du corps a disparu. Le tabernacle en bronze doré, 8 chandeliers, 4 candélabres, une croix en cuivre verni ont disparu, ainsi que 6 lustres Renaissance, 8 lampes Médicis en bronze doré, 2 petites lampes Médicis, une belle lampe argent et bronze, donnée par l'impératrice Eugénie. Alors cette lampe, vous voyez, c'est celle qui est au centre, elle a été retrouvée puisqu'elle est toujours ici. Au pied de l'autel, sous la table de communion, le tombeau de M. Desgenettes a été profané. Le premier cercueil recouvert d'un drap noir est brisé. La tête du père Desgenettes est séparée du reste du corps, mais elle est dans le cercueil. Le corps est entier, sauf quelques phalanges des doigts. La pierre de marbre qui est là, en bas, avec son inscription, est complètement brisée et l'encadrement en cuivre de cette pierre a disparu. Alors la chapelle Sainte-Anne, elle est là-bas, juste après. Alors le marchepied de l'autel est enlevé, le caveau ouvert, les confessionnaux brisés, les cœurs en vermeil qui se trouvaient sur les ex-voto ont disparu. Tous les ornements, chandeliers, lampes ont disparu. La chapelle Saint-Augustin qui est là. Le marchepied de l'autel est brisé. Les reliquaires qui se trouvaient sous l'autel ont disparu. Le tabernacle est arraché. Les chandeliers, une croix en cuivre verni, les lampes ont disparu et les candélabres sont brisés. Alors, la chapelle de la Sainte Enfance, elle est là-bas. Le caveau a été ouvert, les armoires brisées, la tête de l'enfant Jésus manque, les chandeliers, les lampes suspendues ont disparu. Deux ex-voto qui étaient sur les panneaux de l'autel ont disparu. Alors la chapelle du Sacré-Cœur, la chapelle du Sacré-Cœur qui est là maintenant, n'était pas à cette époque-là. Elle était à la place de la chapelle de Notre-Dame des Douleurs, c'est-à-dire qu'il y a eu une intervention des chapelles. Le caveau dans lequel se trouvait renfermé le trésor de l'Église est ouvert. Le trésor a été enlevé, le confessionnal est brisé, le marchepied de l'autel ainsi que le tabernacle sont arrachés. Le cadre renfermant une image de la Sainte Face donnée par la vicomtesse Jurien est enlevé. J'en viens à la nef. Il existait 8 lampadaires suspendus de style Renaissance. Ils ont disparu. Tous les cœurs qui se trouvaient sur la boiserie du banc d'œuvre, le banc d'œuvre, c'est là où se mettaient les marguilliers, en dessous la statue de la Sainte Vierge, ainsi que la croix qui était au-dessus du fronton, ont été enlevés. Les troncs ont été forcés, serrures et cadenas ont été arrachés. Sur le tronc de la Sainte Enfance se trouvait un ex-voto en bronze, représentant l'enfant Jésus couché, a disparu. Alors, il est l'ex-voto, il est là, derrière, à côté de Jean-Paul II. Donc, il a été retrouvé puisqu'on l'a remis dans l'église. Alors, les sacristies. Bien entendu, tous les ornements ont disparu. Le vestiaire des chantres, des clercs et des enfants de chœur a disparu. Les objets d'orfèvrerie, crosse d'évêque, aiguillère, croix de procession, chandeliers, ostensoirs, ciboires, ont disparu. Le bureau de l'archiconfrérie, ainsi que la salle des archives ont été saccagées. Plusieurs registres ont été déchirés, une partie de la correspondance de l'archiconfrérie, les collections des annales et diverses pièces ont été lacérées. Alors, ce qui explique que moi qui travaille sur les registres, entre autres des ex-voto, pourquoi je n'ai pas trouvé de registre d'ex-voto avant 1871. Je pense qu'ils ont été déchirés. Alors, la caisse renfermant les ornements légués à la fabrique par M. Desgenettes a été ouverte et les ornements enlevés. Le journal L'Univers, qui n'existe plus maintenant, il était dirigé par Louis Veuillot, publia le mardi 6 juin 1871 un article concernant le pillage de Notre-Dame des Victoires. Voilà. Je ne sais pas si je dois vous le lire parce que c'est un peu long quand même. Enfin, il relate les faits que je viens de vous raconter. L'arrivée des troupes versaillaises le 21 mai mettra fin à la commune, souvent de façon tragique et sanglante, durant une semaine. Le 22 mai, l'archevêque de Paris, Mgr Darbois, et 300 autres otages sont transférés de la prison de Mazas à celle de La Roquette. Le 24 mai, 6 d'entre eux sont fusillés. Mgr Darbois, l'abbé Deguéry, curé de la Madeleine, l'abbé Allard, aumônier des ambulances, deux jésuites, les pères Clerc et Ducoudray, et Louis Bernard Montjean, ancien ministre de Napoléon III et président de la Cour de cassation. Le lendemain, 5 dominicains sont tués par balle en pleine rue. Le 26 mai, 49 prisonniers de la Roquette sont choisis comme otages. Il s'agit de 39 civils et de 10 ecclésiastiques. Arrivés rue Axo, tous les otages sont tués par la foule ou massacrés. Trois autres ecclésiastiques sont exécutés encore le 27 mai. Mgr Surat, archidiacre de Notre-Dame de Paris, qui donna à Notre-Dame des Victoires en testament sa crosse et son aiguillère. L'abbé Bécourt, curé de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, et le père Houillon des missions étrangères de Paris. Cinq prêtres, un lazariste et quatre picpusiens seront béatifiés à Notre-Dame de Paris le 22 avril 2023. Voilà. C'est pas très, très beau et glorieux ce que je vous ai raconté, mais je pense qu'il faut le savoir et s'en souvenir. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi.